C'est vrai que ça fait quelque chose de venir et revenir ici, de vous voir les uns les autres. On va essayer de ne pas être ému et de se centrer sur la parole de Dieu, n'est-ce pas? Ce que j'avais à cœur d'aborder ce matin, c'est une phrase toute simple que j'ai souvent répétée ici et qui me semble important de rappeler régulièrement. Dieu dirige nos vies. C'est un fait et c'est très bien. Il dirige bien mieux nos vies que ce que nous sommes capables de faire. Il dirige aussi nos églises et c'est très bien. Il les dirige bien mieux que ce que nous sommes capables de faire. Voilà. Et ce que je vous propose de faire, c'est qu'on étudie un morceau de la vie du roi David, qui est un peu une étape dans sa vie. Alors je ne sais pas si 40 ans c'est une étape, un peu quand même. Et qui me semble rappeler quelque part les défis de chaque étape de nos vies. Dieu dirige nos vies, alors on n'a parfois pas cette impression-là, je ne sais pas comment était 2015 ou 2016 pour vous, il y a parfois des changements qu'on n'avait pas attendus ou pas prévus, ou qui se sont faits autrement que prévu. Changement de travail, c'était mon cas, des enfants qui arrivent, prévu ou pas, des gens qui tombent amoureuses, qui partent à la retraite, des pannes de voiture, je ne sais pas quoi encore. Dans le temps que j'étais à vendeur, il y a eu bien des virages prévus et bien d'autres virages pas tellement prévus, et je pense que ça continue. Et parfois, nous avons cette difficulté de croire Dieu dirige les choses. Dieu dirige les choses. Et la première, sans doute, chose à dire, c'est, comme Jean-Haul a rappelé dans sa présidence, finalement, la chose principale que Dieu fait, c'est qu'il travaille à nous rendre un peu plus saints. Vous connaissez sans doute, en tout cas pour une partie d'entre vous, ces fameux passages de Romains 8, 28 et suivants. Nous savons en outre que l'Esprit fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu. L'Esprit Saint fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu. Et la suite, ce n'est pas en nous donnant du confort, de la richesse et de la santé, mais c'est ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils. On est appelé à devenir toujours un peu plus semblable à Jésus-Christ. C'est ça, devenir saint. Devenir semblable à Jésus-Christ. Dieu travaille pour ça. Et il est fidèle et il travaille pour cela. On était chez plusieurs amis hier, on a profité de faire un peu la tournée des popotes. Ça faisait plaisir de voir, oui, Dieu continue à travailler, à vous affiner les uns les autres, à être un petit peu plus semblable à Christ. Dieu dirige nos vies. Je crois que c'est Ralph Chalice qui avait cette boutade. Le Seigneur place une lampe devant nos pas et non pas un projecteur sur notre front. Je trouve que c'est très vrai. Le Seigneur dirige nos vies. Et c'est ça qu'on a besoin, savoir que le Seigneur dirige nos vies. Si nous, on voit que le pas suivant, bon, le Seigneur lui voit, et il voit jusqu'au fond de l'éternité. Notre travail central dans notre vie, et c'est vrai aussi pour les églises, c'est laisser le Seigneur faire. Laisser le Seigneur faire, c'est ça qui compte. Je crois que la Bible nous appelle toujours à avoir un regard assez positif sur ce qui se passe. Parce que Dieu va tirer des bonnes choses de ce qui se passe. On ne sait pas toujours comment. Je crois que j'étais encore en Lorraine quand un ami qui vivait des temps très compliqués, vraiment compliqués, m'a dit une fois « Je me réjouis vraiment de voir comment Dieu va s'en sortir de cette situation. » J'avais trouvé très juste. Plutôt que s'inquiéter et de s'affairer dans tous les sens, il attendait avec confiance, puis avec curiosité, ce que le Seigneur allait faire. Je trouvais que c'était très vrai. Nous l'avons dit aussi tout à l'heure dans la louange, le point central de notre foi, c'est la résurrection. De la mort sur la terre de quelqu'un sur une croix est sortie, quelque part, la chose la plus lumineuse de notre temps. Le salut possible. Et quelque part, notre foi s'appuie là-dessus. Dieu y tire des choses lumineuses. Et je crois très souvent on cumule les problèmes de notre vie avec le fait que nous nous énervons sur les problèmes de notre vie. Ouais. Occupons-nous déjà sérieusement de ce qui se passe et de prier pour ce qui se passe, ça sera déjà un peu plus simple. Et occupons-nous à prier pour que le Seigneur nous redonne la paix et l'espérance et la confiance. Je sais que dans ma tête, il y a souvent ces paroles « Ah, si ça avait été comme ceci ou comme ça, ah, si ça s'était passé, ah, si j'avais fait ci », vous voyez, ce genre de phrases comme ça. J'espère qu'il n'y a pas qu'à moi que ça arrive. Et souvent, je me suis dit « j'ai déjà beaucoup de peine à gérer ma propre vie à moi tout seul. » Donc, essayer d'en vivre encore d'autres que j'imagine, ça devient franchement un petit peu compliqué, finalement. Je crois que c'est toujours Ralph Chalice qui disait « Dieu m'a préservé de 95% des choses qui m'inquiétaient. » Et il continue en disant « Elles ne sont jamais arrivées. » Dieu dirige nos vies et nous attendons avec confiance et curiosité ce qu'il va faire dans l'étape d'après. Je vous propose d'ouvrir maintenant vos Bibles dans 2 Samuel 7. C'est un long passage, mais ça me semblait important de le lire en entier. On va lire par petits morceaux et je vais essayer de le commenter en cours de route. Parce qu'il y a des tournants classiques dans la vie. Il y a des moments où on se passe d'une étape à l'autre. Et c'est vrai dans nos vies d'église, c'est vrai dans nos vies à nous. Et on voit ici une étape de la vie de David et quelque part le Seigneur qui nous montre une des choses importantes pour cette nouvelle étape du roi David. Alors, si vous avez vos Bibles ou vos smartphones, prenez 2 Samuel 7, sinon je vais essayer de lire pour que vous puissiez tous entendre la parole de Dieu. On va d'abord lire simplement les trois premiers versets. « Comme le roi s'était installé dans son palais et que l'Éternel lui avait accordé une existence paisible, en le délivrant de tous ses ennemis alentour, il dit au prophète Nathan, « Regarde, j'habite dans un palais de cèdre, alors que le coffre de Dieu est installé au milieu d'une tente de toile. » Nathan lui répondit, « Va et réalise les projets qui te tiennent à cœur, car l'Éternel est avec toi. » Voilà. David rêve de construire le temple, un temple à Jérusalem, et il demande à Nathan, « Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée ?» Et Nathan va lui répondre, va et réalise les projets qui te tiennent à cœur, l'Éternel est avec toi. David a survécu longtemps dans le désert, dans des situations très difficiles. Il a enfin une capitale, un palais, un état qui fonctionne, une belle armée, il est libéré de ses ennemis. Et puis la première réaction de David, c'est « Comment puis-je dire merci à Dieu ?» C'est une vraie question. Comment puis-je dire merci à Dieu ? C'est beaucoup mieux que de se dire comment on en avoir encore plus. Hein. Comment dire merci à Dieu? Il a fait venir l'Arche de l'Alliance à Jérusalem, il a déjà préparé le haut d'une colline pour l'installer, et ensuite il propose de construire un temple. Voyez, après sa première réaction qui est « Comment dire merci à Dieu ?», vient une seconde réaction « J'aimerais faire quelque chose pour Dieu. » Eugène Peterson, qui a écrit un commentaire excellent sur la vie de David, c'est un commentaire qui s'appelle « Fort pour le combat », vous le trouverez à Équilibre, un grand rue, c'est ça, hein ? Et il imagine Nathan sous la forme d'un pasteur d'aujourd'hui. Nathan, il a l'habitude de gens qui viennent le rencontrer pour dire « Ah Nathan, prie pour moi, j'ai besoin que Dieu agisse pour moi. » Qui améliore ma santé, qui change le caractère de ma femme, que je réussisse dans les affaires, que je gagne un match de tennis demain ou je ne sais pas quoi d'autre encore. Ou alors il va rencontrer des gens qui viennent se plaindre. Vraiment, l'église n'est pas assez chaleureuse, les gens ne s'occupent pas assez de moi. Ou qui viennent pour dire, tu décides tout seul, sans consulter personne. Ou encore, va donc dire à un tel d'arrêter de... Vous voyez ce genre de choses, hein? Ça arrive aussi à la mairie, je pense, hein, d'ailleurs. Hein, ce n'est pas seulement les pasteurs qui... Non, jamais. Bon. Et voici quelqu'un qui vient pour offrir quelque chose à Dieu. Génial, non? On comprend que Nathan, il dit toujours, vas-y, génial, quoi. Ce qui est étonnant, c'est que Dieu n'est pas d'accord. La phrase suivante, c'est, cependant. Ouais. Dieu n'est pas d'accord. C'est étonnant, hein. Un slogan de la CEF pendant un temps, c'est, la bonne volonté ne suffit pas. Ouais. Nous avons parfois des bonnes idées, et même pour servir Dieu, et ce n'est pas forcément la volonté de Dieu. Il y a parfois des bonnes idées qui sont finalement pas si bonnes que ça. Il y en a d'autres qui sont bonnes, mais ce n'est pas le bon moment. Il y en a d'autres qui sont bonnes, et c'est... je ne suis pas la bonne personne pour l'accomplir. C'est le cas pour David. Dieu va lui dire dans la suite, « C'est pas toi, c'est ton fils. » Qu'est-ce qui ne va pas dans le projet du roi David ? Alors je vous invite à lire la suite, où on voit la réponse de Dieu. Dieu va parler au prophète Nathan, et quelque part en creux, par la réponse de Dieu, on se rend compte ce qui ne va pas dans la demande ou dans la proposition de David. À partir du verset 4, on va lire jusqu'au verset 17, c'est cette fois une lecture un peu plus longue. « Cependant, la nuit suivante, l'Éternel adressa la parole à Nathan en ces termes. « Va dire à mon serviteur David, voici ce que déclare l'Éternel. Tu veux me bâtir un temple où je puisse habiter ? Je n'ai jamais résidé dans un temple depuis le jour où j'ai fait sortir les Israélites d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. J'ai cheminé sous une tente, logeant dans le tabernacle, pendant tout ce temps où j'ai accompagné les Israélites, et jamais dit à un seul des chefs d'Israël que j'avais établi pour diriger mon peuple, « Pourquoi ne me bâtissez-vous pas un temple en bois de cèdre ?» Voici maintenant ce que tu diras à mon serviteur David. Ainsi parle l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. « Je suis allé te chercher dans les pâturages, où tu gardais les moutons, pour faire de toi le chef de mon peuple Israël. » Je t'ai soutenu dans toutes tes entreprises. Je t'ai débarrassé de tous tes ennemis. Je te ferai un nom très glorieux, comme celui des grands de la terre. J'attribuerai un territoire à mon peuple Israël, où je l'implanterai pour qu'il puisse habiter chez lui et ne soit plus inquiété et opprimé comme auparavant par des hommes méchants, comme à l'époque où j'avais établi des chefs pour mon peuple Israël. Je t'accorderai une existence paisible en te délivrant de tous tes ennemis. Enfin, l'Éternel t'annonce qu'il te construira une dynastie. Quand le moment sera venu pour toi de rejoindre tes ancêtres décédés, j'établirai après toi l'un de tes propres descendants pour te succéder comme roi, et j'affermirai son autorité royale. C'est lui qui construira un temple en mon honneur, et je maintiendrai à toujours son trône royal. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je me servirai d'homme pour le corriger par des coups et des châtiments. Mais je ne lui retirerai jamais ma faveur comme je l'ai retirée à Saül, que j'ai écarté pour te faire place. Oui, je rendrai stable pour toujours ta dynastie et ta royauté, et ton trône sera inébranlable à perpétuité. » Nathan rapporta fidèlement à David toutes ses paroles et toutes ses révélations. Qu'est-ce qui ne va pas dans le projet de David ? Vous avez peut-être remarqué dans cette lecture que tous les sujets des verbes, c'est toujours Dieu. C'est toujours Dieu qui dit « je », c'est toujours Dieu qui agit. Il rappelle l'histoire d'Israël, il rappelle l'histoire de David, et il rappelle que c'est lui qui agit, que c'est lui qui a fait bouger les choses, que c'est lui qui a agi pour David, que c'est David qui a besoin de Dieu, et non pas Dieu qui a besoin de David. Le problème de David, c'est qu'il a envie d'aider Dieu. Est-ce que Dieu a vraiment besoin d'aide ? Petite parenthèse. Ceux qui me connaissent savent que je mets beaucoup de parenthèses. C'est toujours important de relire notre vie selon les yeux de Dieu. Vous voyez, David a tendance à relire sa vie en disant « finalement, j'ai bien réussi ma vie ». Et Dieu lui rappelle « ouais, c'est moi qui ai dirigé ta vie ». Je me rappelle par exemple un groupe d'étudiants à l'époque où j'étais encore au GBU. On étudie un passage des évangiles de la vie de Jésus. Et puis un des étudiants brusquement s'est arrêté puis a dit « pourquoi vous lisez ce texte comme si vous étiez les disciples ? Moi, il me semble qu'on est plutôt les pharisiens dans cette histoire ». Je crois qu'il avait raison. Et que c'est nous qui lisions la Bible de travers. Nous devons apprendre à voir la Bible comme Dieu la voit, à voir nos vies comme Dieu la voit. Dieu rappelle à David que c'est lui qui a agi. David serait-il en train de dire, Je suis là parce que j'ai bien bossé et je vais continuer. Petite comparaison avec le roi Saül, qui était le roi avant David et qui a été écarté par Dieu, comme ce texte nous le rappelle. Saül est un homme qui priait beaucoup, sans doute autant que David. Mais quand Saül priait, c'était pour demander à Dieu de bénir ce qu'il avait déjà décidé avant. Ouais. Saül y pense toujours à Dieu, mais quelque part pour utiliser Dieu selon ses propres projets. Saül avait un peu cette idée qu'il peut contrôler Dieu, qu'il peut décider, et Dieu va agir. Vous voyez que David est en train de glisser un petit peu là-dedans. Ce texte nous rappelle du début à la fin que c'est Dieu qui a agi et que c'est cela que nous devons garder en mémoire. Plutôt que « moi, j'ai fait ceci ou cela ouais. ». Ou « pourquoi as-tu fait ceci ou cela ?» Ça marche aussi, hein. C'est Dieu qui a agi. Dans la vie du roi David, il y a une longue période de désert. C'est le cas de la vie de beaucoup d'hommes de Dieu et de plusieurs d'entre vous aussi. Une période de désert où on ressent, c'est un peu la définition du désert, on ressent fortement notre fragilité. On est conscient qu'on a besoin de Dieu. C'est dans le désert que David va apprendre à écouter Dieu, qui va apprendre l'humilité, qui va apprendre que Dieu dirige sa vie et prend soin de lui. Et maintenant, dans une période où c'est plus facile, où ça va bien, il y a cette tentation d'oublier ces leçons-là qu'il a apprises dans le désert. À chaque étape de notre vie, il y a des bonnes choses et il y a aussi des tentations. Vous savez que dans le désert, il y a aussi des tentations, hein ? Quand on est dans des périodes de désert, il y a des fortes tentations de se plaindre, de se faire passer pour une victime, de penser que l'aide qu'on nous apporte n'est jamais suffisante. Vous savez ça, dans le désert, vous connaissez ça comme moi. On glisse vite là-dedans. Et puis, quand on est dans une période où tout va bien, il y a d'autres bonnes choses et puis il y a d'autres tentations aussi. David, ici, est dans une période de sa vie où c'est bien, quoi. Il a à peu près 35 ans, il est en pleine forme physique, il a une belle famille, je crois qu'il a déjà 4 épouses, par exemple. Il a une bonne situation professionnelle, roi, c'est quand même pas mal. Une belle maison en cèdre, tout ça, oui. Bon. Et la tentation est forte de vouloir faire des choses pour Dieu. De penser qu'on sait très bien ce que Dieu veut et ce que Dieu aimerait et que je peux le faire quelque part. Plutôt que de se rappeler cette réalité que David savait bien dans le désert, j'ai besoin de Dieu. Ouais. Je pense qu'une église qui fête fièrement ses 40 ans est plutôt un peu dans la tentation de David de ce texte que dans celle du désert. On se méfie à raison de la tentation quelque part d'oublier Dieu ou de le rejeter. En fait, ce que David est tenté de faire, c'est la même chose, juste un tout petit peu plus subtil. On agit pour Dieu, c'est lui qui commence à avoir besoin de moi. On agit pour Dieu comme si c'est notre action qui fait bouger les choses. On agit pour Dieu comme si c'est nous qui décidons à la place de Dieu, et Dieu va bien finir par bénir après. Une autre parenthèse, encore, un peu plus longue cette fois-ci. Juste rappeler que notre attitude envers Dieu est la même que nous avons envers les hommes. Tout est lié. Notre attitude envers Dieu se reflète dans la manière dont nous traitons les gens autour de nous. Quelques petits exemples ou plusieurs manières de voir ça. Vous avez sans doute déjà remarqué, ça c'est facile à voir, qu'on glisse très vite de la position de « Ah, si les autres faisaient cela pour moi !» la tentation du désert, à quelque chose qui est un petit peu l'autre côté de la face, je sais bien ce que les autres ont besoin. Ça, c'est la tentation quand tout va bien. Vous avez déjà remarqué ça? On glisse tout de suite d'un à l'autre. Et on fait pareil avec Dieu. Du « j'ai besoin de Dieu » à « je sais bien ce que Dieu devrait faire ». Je dis souvent cela ainsi, si tu veux connaître la spiritualité de quelqu'un, il ne faut pas écouter ses prières. Il faut regarder la manière dont il parle aux hommes. Parce que la manière dont nous parlons aux hommes reflète la manière dont nous nous comportons envers Dieu. Vous savez, dans les prières, on peut toujours faire du théâtre. Hein. C'est le cas des pharisiens. Ils sont experts de très belles prières, mais ça ne veut pas dire grand-chose de ce qui se passe dans leur cœur. La réalité des pharisiens, c'est qu'ils donnent des leçons aux hommes et qu'ils font pareil avec Dieu. Ils donnent des leçons à Dieu. C'est ça qu'on voit dans les évangiles. Jésus a bien moins de difficultés avec les voleurs et les prostituées qu'avec ceux qui veulent faire des choses pour Dieu. Pour revenir à David, lorsque David est tenté d'agir pour Dieu, c'est aussi la période où il va commencer à utiliser Bathsheba sans lui demander son avis. Et quand Saül va commencer à se plaindre de la non-action de Dieu, c'est aussi la période où il se plaint de la non-action du prophète Samuel et où il veut contrôler ses hommes. Vous voyez, tout ça est lié. Je sais bien ce que les autres devraient faire, comme je sais bien ce que Dieu devrait faire. Notre attitude envers Dieu et notre attitude envers les hommes est souvent parallèle, et ce texte nous rappelle que nous devons toujours revenir avec humilité à cette certitude que nous avons besoin de ce Dieu qui dirige nos vies. David a appris dans le désert à être un homme de prière et pas seulement un chef de guerre. C'est dans le désert qu'il va apprendre ou qu'il va écrire la plupart des psaumes. Ici, il doit garder cette attitude. Être un homme de prière avant tout. Le contexte a changé. Il a bien d'autres conforts, mais aussi quelques contraintes en plus. Le centre reste le même, l'humilité et la prière. On va arriver à la fin de ce texte. La suite nous montre l'attitude de David, et je pense qu'elle est exemplaire pour nous. Donc on va lire de nouveau un texte un peu long, à partir du verset 18 et jusqu'à la fin. Ensuite, je donnerai quelques mots de commentaires qui serviront de conclusion. Alors, le roi David alla se placer devant l'Éternel et lui adressa cette prière. « Seigneur Éternel, qui suis-je? Et qu'est donc ma famille pour que tu m'aies fait parvenir où je suis? Et comme si ce n'était pas déjà suffisant à tes yeux, Seigneur Éternel, voilà ce que tu fais encore à ton serviteur. Voilà que tu fais encore à ton serviteur des promesses pour l'avenir lointain de sa dynastie. Seigneur Éternel. » Cela sied-il à un humain? Que pourrais-je te dire de plus, Seigneur éternel? Tu connais toi-même ton serviteur. C'est parce que tu l'as promis et que tu as décidé ainsi et... C'est parce que tu l'as promis et que tu en as décidé ainsi que tu as accompli ces grandes choses et qu'en plus, tu les as révélées à ton serviteur. Que tu es grand, éternel Dieu. Il n'y a personne comme toi. Il n'existe pas d'autre Dieu que toi. C'est vraiment comme tout ce que nous avons entendu dire. Y a-t-il une seule nation sur terre qui soit comme Israël, ton peuple, que des dieux sont allés libérer pour en faire leur peuple et les rendre semblables en accomplissant pour eux et en faveur de ton pays des choses grandes et redoutables? N'as-tu pas chassé d'autres nations avec leurs dieux devant ton peuple que tu as libéré pour toi de l'Égypte? Tu as établi ton peuple d'Israël comme ton peuple pour toujours. Et toi, éternel, tu es devenu son Dieu. Maintenant donc, éternel Dieu, veuille toujours tenir la promesse que tu as faite à ton serviteur et à sa dynastie. Oui, veuille l'accomplir. Ainsi tu seras éternellement exalté et l'on proclamera que l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, est le Dieu d'Israël. Et que la dynastie de ton serviteur David demeure stable devant toi. En effet, ô éternel, Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël, tu as révélé à ton serviteur que tu lui bâtirais une dynastie. C'est pourquoi ton serviteur a trouvé le courage de t'adresser cette prière. Maintenant, Seigneur éternel, c'est toi qui es Dieu. Tes paroles sont vraies et tu as promis ce bonheur à ton serviteur. Veuille donc à présent bénir ma dynastie pour qu'elle subsiste à jamais devant toi. Car c'est toi, Seigneur éternel, qui as fait la promesse. Et c'est grâce à ta bénédiction que la dynastie de ton serviteur sera bénie à jamais. Voilà, je trouve que c'est un très beau texte. On voit ici la promesse, la foi de David. David, il a entendu Dieu et il est prêt à changer. Il accepte la parole du Seigneur avec humilité. Et en gros, il va dire, c'est Dieu qui a fermé la maison de David. Et certainement pas David qui va affermir la maison de Dieu. David a beaucoup de défauts, mais il a une qualité, c'est qu'il sait écouter. Ça, c'est sa grande qualité. Et voyez la première chose qu'il fait, il va se placer devant, dans la présence de Dieu, et toute sa prière est une manière de dire « Oui Seigneur, tu as raison ». Il rappelle « Je ne mérite rien, que pourrais-je te dire, tu as promis, et parce que tu as promis, tu vas l'accomplir. Ce n'est pas parce que j'ai fait que tu vas le faire, mais parce que tu l'as promis. » Il dit aussi que Dieu révèle son plan et que c'est une grâce. C'est un cadeau qu'il nous fait. Il rappelle qu'il n'y a personne comme Dieu. Il rappelle aussi qu'il n'y a pas de peuple comme Israël parce qu'il est lié à Dieu par une alliance. David reprend ici la promesse que Dieu a faite à Abraham, il y a 1000 ans avant David, et qu'il a rappelé ensuite à Moïse, 500 ans avant David. Et David l'a bien compris. Il se rappelle, Dieu a fait une promesse et il la réalise. Et sa prière, je trouve qu'il y a deux prières que je trouve très belles ici. C'est quand il dit, Seigneur, accomplis tes promesses. Pas accomplis ma volonté, accomplis tes promesses. Mais aussi quand il dit, c'est pourquoi ton serviteur a trouvé le courage de t'adresser cette prière. C'est fort quand même. Vous voyez, comme souvent, on prie un peu comme ça, quoi. Voilà. Oui, on peut prier, Dieu, il est là, oui, voilà. Comme on va acheter du pain, quoi. Et ici, il se rappelle qui est Dieu. Il dit, c'est parce que tu as fait du promesse, parce que toi tu m'aimes, que j'ai pris ce courage de t'adresser une prière. Dans nos vies, il y a des étapes. Le Seigneur va toujours continuer à nous mener plus loin, à nous rendre un peu plus semblables à Christ, à nous rendre un tout petit peu plus, j'allais dire, compatibles avec le royaume céleste qui nous attend. À chaque étape de nos vies sur cette terre, il y a des très bonnes choses. Et il y a des nouvelles tentations. Et ce n'est pas grave. À nous de rester fermes sur cette grande vérité. Nous appartenons au Seigneur. Nous avons besoin de lui. Il est notre Dieu et il prend soin de nous. Je vous invite à prier.